Alors pour moi, le management bienveillant, c'est se poser la question de comment accompagner la personne qu'on manage, comment l'accompagner pour progresser, pour se structurer, pour être la plus autonome possible rapidement.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafont, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Génération Management. Donc je suis ravi parce que tu es le premier invité et donc c'était assez naturel pour moi de t'inviter parce que tu as été mon manager pendant 4 ans. Donc voilà, merci beaucoup, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui.
Eh ben, salut Louis, merci beaucoup à toi de m'avoir invité pour ce premier épisode de Génération Management. Je suis vraiment super content d'être là et de pouvoir échanger avec toi sur le management.
Bah écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Nicolas ?
Alors moi je suis Nicolas Linossier. Je viens de Saint-Étienne, j'ai une passion pour le sport et puis pour l'art, qu'il soit contemporain ou urbain.
D'accord. Bah ouais, et la course à pied, je me souviens que ouais, tu m'as traîné dans une ou deux courses. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours professionnel ?
Alors j'ai intégré une classe préparatoire en 2004 et après 2 ans... En classe prépa HEC, j'ai intégré une école de commerce. Ensuite, j'ai eu 10 ans d'expérience professionnelle qui ont été ponctuées par différentes aventures. Une première aventure au sein du groupe Accor où j'ai travaillé dans l'audit des hôtels. Puis 1 an à Taïwan, chez Carrefour. Et ensuite, j'ai travaillé un peu plus de 7 ans dans 2 cabinets de conseil sur Lyon, du conseil en organisation et management. Et puis, depuis 6 mois, j'ai créé ma propre entreprise, une entreprise qui s'appelle L'Œil-Pan, qui est une société de conseil spécialisée dans l'acquisition d'œuvres d'art, plutôt art urbain et art contemporain.
D'accord. Et donc, à quel moment dans ta carrière professionnelle, tu as commencé à faire du management ?
Alors, j'ai commencé à faire du management de manière assez facile, finalement, parce que dans ma première aventure chez Accor, j'ai encadré très vite des stagiaires. Il y avait une vraie logique à les rendre le plus autonome possible pour qu'après un statut de stagiaire, ils puissent intégrer l'équipe. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à encadrer, alors je ne sais pas si c'est vraiment du management, mais au moins à encadrer des stagiaires pour les rendre le plus autonome possible. Ensuite, pendant mon aventure à Taïwan, là, j'ai pas beaucoup managé sur cette période-là, à part peut-être des équipes projet, mais il n'y avait pas du tout de management hiérarchique. Et enfin, dans les 2 aventures conseil qui ont suivi, là, j'ai encadré petit à petit des équipes avec des personnes un peu plus juniors sur des missions bien spécifiques.
D'accord. Et comment t'as passé ce step de manager des gens ? Donc est-ce que ça fait plutôt naturellement ? Est-ce que t'as eu des formations ? Voilà, est-ce que ça s'est fait au fil de l'eau ? Enfin voilà, comment t'as géré ce gap entre guillemets dans la production et faire du management ?
Alors c'est une transition assez naturelle et surtout que les cabinets de conseil, les cabinets d'audit sont assez pyramidaux dans leur ensemble. Donc on se retrouve assez vite à manager des personnes. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de managers, que ce soit dans mes expériences professionnelles, dans mes stages. Donc j'ai pu voir plein de styles de management différents. Et donc du coup, avec une volonté de prendre un peu le meilleur de chacun de ces types de management, d'être toujours à l'écoute. Mais voilà, ça s'est fait vraiment de manière naturelle. Pas vraiment eu de formation, j'ai peut-être eu quelques sessions de management, mais avec des conseils un peu difficiles à appliquer. Les éléments qu'on nous a appris à l'école non plus sont pas non plus hyper hyper applicables dans la réalité.
D'accord. Et ok. Et est-ce que quand tu es passé manager, est-ce que tu t'es questionné sur le style de management que tu voulais appliquer? Est-ce que tu t'es basé un peu sur tes expériences passées? Voilà, est-ce que tu t'es posé la question ou pareil, ça s'est fait un peu sur le tard en étant entre guillemets dans la pratique?
Ouais, je pense que je me suis vraiment interrogé sur les choses que j'avais envie de mettre en place et sur la relation de confiance que je voulais nouer avec les personnes que je manageais. Je me souviens, à une époque, je tenais un petit carnet des bonnes pratiques de management. C'était des éléments enfin, que j'avais pu observer chez certains managers et que je trouvais, que j'avais trouvé bien. Dans une logique d'accompagner une personne un peu plus junior à la fois à se structurer, à être plus autonome et à progresser dans son activité.
Ah ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu as des exemples pour nos auditeurs de bonnes pratiques que tu notais? Est-ce que ça venait de tes expériences passées? Est-ce que c'est ce que tu as observé? Enfin, comment tu faisais? Est-ce que tu avais de la lecture? Comment tu tenais ce carnet?
Ouais, c'était surtout sur la base des missions que j'avais pu avoir avec certains managers. Je me souviens, lors de mon premier stage, on avait un manager qui nous disait bah vous êtes stagiaire, vous partez pas après 19h. En audit, ça peut être un élément un peu surprenant, mais voilà, j'ai toujours trouvé ça super bien, très cool, en se disant bah voilà, c'est un stagiaire, il apporte ce qu'il a apporté sur un temps. L'objectif, c'est pas de le dégoûter de sa première expérience de boulot, c'est plutôt de le faire adhérer à des valeurs d'entreprise. Et un truc comme ça, très concret, je trouve ça très cool. À l'inverse, toujours pendant ce stage, j'avais des managers qui étaient peut-être un peu sous l'eau et qui nous faisaient bosser jusqu'à 22h30, 23h sur des éléments enfin voilà, je ne savais pas trop pourquoi je les faisais. Et donc voilà, c'est ces choses-là qui m'ont fait prendre conscience de ce que je voulais vraiment apporter dans mon management.
D'accord. Et donc tu me parlais de ton expérience à Taïwan. En quoi le management à Taïwan a été un peu différent peut-être en fonction de bah, peut-être la culture ou voilà en fonction aussi de ton métier. Qu'est-ce qui a été différenciant et changeant par rapport à ce que tu as connu?
Alors ouais, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a pas mal perturbé, cet aspect management à Taïwan. Donc je sortais d'une expérience chez Accor où on travaillait en équipe projet avec une équipe d'une dizaine d'auditeurs internes, plutôt jeunes. Je crois que le plus vieux devait avoir 28 ans. Donc voilà, beaucoup de cohésion d'équipe, ambiance hyper sympa. Et puis on partait en mission, auditer des hôtels, ça. Il y avait pas mal de boulot, mais toujours dans une bonne ambiance, beaucoup d'entraide. Et c'est vrai que je suis arrivé à Taïwan, dans un pays où la culture est complètement différente de la nôtre. Et je me souviens quelque chose qui m'a vraiment frappé dès le premier jour. En fait, vous arrivez dans un grand open space où il y a peut-être 100 ou 120 personnes qui travaillent, et puis vous avez les rangées, et au bout de chaque rangée, il y a un bureau transversal sur lequel il y a le directeur. Et en fait, si vous êtes le dernier arrivé, vous êtes le premier sur la rangée, donc le plus loin du directeur. Et puis la personne qui est avec vous, à côté de vous, c'est votre N plus 1, et puis N plus 2, etc. Et ça remonte comme ça jusqu'au directeur. Et donc les quatre personnes les plus importantes de la direction sont donc le directeur en transversal, et puis les autres qui sont le plus proche du directeur. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et surtout que à ce moment-là, je gérais pas mal des projets avec des personnes qui étaient sur toute la chaîne. Donc je travaillais aussi bien avec la personne qui venait d'arriver et qui était très loin dans l'organisation physique, pardon, que le directeur. Et à chaque fois, je devais valider avec la première personne, la deuxième, la troisième, et ça prenait un temps fou et je trouvais ça complètement déraisonnable.
Ah, c'est marrant cette différence de culture où tout est très hiérarchique en fait, j'imagine,
Ouais,
dans le
alors c'est vrai
process.
que ça c'était une expérience. Je pense qu'il faut pas faire une généralité et je pense pas que toutes les boîtes à Taïwan sont comme ça, mais en tout cas, dans cette boîte-là, il y avait vraiment ça, c'était assez étonnant.
Ah ouais, c'est intéressant. Donc j'imagine que c'est ce que t'as pas voulu reproduire en revenant en France.
Exactement, exactement.
Ça
Je
peut
pense
être un
que
bon exemple.
sur des managements de projet, il y a tout intérêt à aller vite. Même si on travaille avec des personnes qui ont des niveaux d'expérience différentes, il y a quand même un intérêt à aller vite et embarquer tout le monde vers un même projet en même temps.
Ouais, c'est clair. Et donc en préparant ce podcast, on a parlé ensemble de management bienveillant. Parce que c'est un peu le premier sujet qui m'est venu en tête, puisqu'on a bossé ensemble pendant 4 ans. Donc, puisque toi, moi, je considère que tu as été un manager bienveillant. Est-ce que tu pourrais définir ce qui est pour toi le management bienveillant? Comment est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu appliquer ou c'est quelque chose de naturel? Voilà, comment tu te positionnes par rapport au management bienveillant?
Alors pour moi, le management bienveillant, c'est se poser la question de comment accompagner la personne qu'on manage, comment l'accompagner pour progresser, pour se structurer, pour être la plus autonome possible rapidement, et en assistant, alors entre guillemets, hein, assistant, mais en l'aidant en cas de difficulté. C'est vraiment ça pour moi le management bienveillant. Enfin, en tout cas, c'est le management que j'essaye de reproduire au quotidien dans mes équipes. Et je pense que c'est en fait dès le démarrage d'un projet, d'une mission, alors avec le prisme conseil, c'est déjà de dire bah, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire? Quel est l'objectif du travail? Et ensuite, essayer de co-construire la démarche avec la personne managée, donc comment on va le faire? Pour que bah voilà, l'équipe soit embarquée et que tout le monde soit au même niveau. Même si c'est des démarches qui sont éprouvées, etc., il y a besoin, je pense, toujours de se re-questionner et de re-questionner la personne qui est managée pour pouvoir avancer et être le plus efficace possible et que ça serve à tout le monde.
Et ouais, dans ce que tu as dit, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est comment embarquer les équipes. Parce que je trouve que ça fait partie aussi de donner du sens au travail des collaborateurs. Comment les motiver et pas juste donner des tâches qui n'ont peu de sens et sans en voir finalement le bout.
Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et j'y repense par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais sur mon premier stage en audit, c'est vraiment une des choses qui m'a frappé. C'est que bah, parfois je savais ce que je faisais, ce que j'allais faire, pourquoi je le faisais, parfois je ne savais pas. Et en fait, on me faisait faire des trucs qui me semblaient aberrants. J'avais beau demander pourquoi, on me disait bah, c'est comme ça a été fait l'année dernière comme ça, il faut le faire comme ça. Et ça, pour moi, c'est le premier frein, le premier obstacle pour un collaborateur pour se sentir bah, vraiment partie prenante d'une équipe et d'être motivé par ça.
Bah, c'est vrai que ça, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé aussi en audit, donc je l'ai vécu. Mais est-ce qu'il y a une notion de taille de l'entreprise? Peut-être que plus l'entreprise est grande, plus les tâches sont compartimentées. Ou alors c'est une question vraiment de type de management.
Ouais, je pense pas que ça soit une question de taille d'entreprise parce que dans les cabinets d'audit, de conseil, on est sur des structures de taille variable. J'ai travaillé à la fois dans un gros cabinet et puis un beaucoup plus petit. C'est plutôt, à mon avis, dans la culture d'entreprise et des managers qui sont en place. Clairement, il y a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, moi j'ai jamais reçu de formation de management. Il y a peut-être des principes de base que j'ai acquis en discutant, en lisant, ou par ma propre expérience. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus en difficulté par rapport à ça et qui n'ont pas cette même vision de management au quotidien.
D'accord. Ouais, c'est clair. Et le management bienveillant, donc toi, c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place de manière consciente, c'est-à-dire de faire grandir les équipes, de nouer une relation de confiance, ou est-ce que ça fait partie aussi de ta personnalité, ou est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit, moi je veux inspirer les collaborateurs, je veux les engager, les embarquer. Donc voilà, comment tu vois la chose là-dessus? Est-ce que tu as, entre guillemets, toujours été comme ça parce que c'est ta personnalité, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler?
Je pense que c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en place. C'était pas forcément naturel au début. Je pense que la solution de facilité, quand même, c'est de se dire bah, je confie des tâches à une personne et puis après je l'évalue un peu sur le travail qu'elle a fait. Mais je me suis très vite aperçu que, bah, déjà, un, si on veut embarquer la personne, c'est quand même mieux de l'investir dès le début d'une mission, de bien lui expliquer, etc. Deux, si on veut la faire progresser, c'est important que la personne elle comprenne pourquoi on a mis tout ça en place, pourquoi on est en train de faire ça. Et puis, troisièmement, je pense que pour la relation de confiance, c'est hyper important. Et moi, en tout cas dans mon management et auprès des équipes, j'essaye d'avoir cette relation de confiance. Je fais relativement confiance à la personne dès le début. Parce que pour moi, la relation de confiance, ça permet de désamorcer aussi d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes, et ça permet de les régler plus facilement. Je suis naturellement quelqu'un qui aime pas trop le conflit, et donc du coup, si je peux arriver en amont à identifier des solutions pour éviter des conflits, c'est quelque chose que je prends vraiment, quoi.
Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as observé des limites au management bienveillant ? Est-ce que ça t'a amené à avoir des difficultés, ou il n'y a vraiment que du positif pour toi sur le management bienveillant ?
Alors, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de positifs.
Ouais.
Après, je pense que ça dépend des comportements et des caractères de chacun. Si je vois une limite, pour moi, c'est à partir du moment où la relation de confiance, elle est rompue avec quelqu'un, c'est me dire, en fait, ce que j'ai essayé de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Est-ce que c'est un management beaucoup plus directif ? Est-ce que c'est laisser quelqu'un en autonomie ? Je pense que c'est un juste équilibre à trouver. Mais moi, vraiment, ce que je visais à travers mon management, alors qu'on le juge bienveillant ou pas, c'est d'établir une vraie relation de confiance avec la personne qui est managée.
Ouais. Et c'est peut-être aussi une vision plus long terme, entre guillemets, avec une vraie évolution du collaborateur au sein de l'entreprise,
une
mise aussi sur le collaborateur, quoi.
Ouais, exactement.
D'accord. Et sur les limites, entre guillemets, du management bienveillant, est-ce que ça t'oblige parfois à avoir un style de management différent en fonction de la personnalité du collaborateur ? Est-ce que peut-être qu'il n'est pas forcément adapté à tout type de personnalité ?
Ouais, totalement. Je pense que tu l'as très bien dit dans ta question, il y a une forte dimension d'attache à la personne, et le management bienveillant, il doit s'adapter finalement au caractère qu'on a en face de soi. Il y a des personnes qui vont être peut-être plus autonomes rapidement, il faut leur laisser cette autonomie, il faut les laisser progresser par eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont devoir être peut-être un peu plus pris par la main, du coup il faut le faire. Et c'est, voilà, ce management bienveillant, pour moi, il doit aller vraiment dans l'accompagnement de la personne. Donc il est déployable à petite échelle, c'est facile dans une équipe projet avec 3-4 personnes de pouvoir accompagner quelqu'un et puis bien cerner sa personnalité pour l'accompagner en fonction. En revanche, sur des équipes qui sont peut-être de taille plus importante, c'est plus compliqué. Et dans ce cadre-là, je pense que il faut s'appuyer sur des relais, des relais dans l'équipe pour arriver à faire passer les messages et arriver à faire passer cette culture. Voilà, ça peut être une des limites du management bienveillant, ça prend du temps, ça prend du temps de le construire avec les personnes. Est-ce qu'à grande échelle c'est déployable comme ça? Je sais pas, et je l'ai pas encore expérimenté.
D'accord. Et donc là, tu me parles de culture d'entreprise. Est-ce que le management ça fait face à une vraie culture d'entreprise? Est-ce que il y a des entreprises qui sont entre guillemets plus enclins à un management bienveillant, d'autres moins? Alors peut-être en fonction de la taille, peut-être en fonction du secteur. Est-ce que c'est pour toi une culture à avoir et à mettre en place, ou est-ce que c'est vraiment en fonction de la personne?
Pour moi, c'est vraiment une culture à mettre en place dans une entreprise. Je pense que l'entreprise a tout à y gagner. Alors chaque entreprise peut décider un peu le mode de management qu'elle veut appliquer pour l'ensemble de ses équipes. Il y en a sera plus directif parce que l'activité nécessite un management plus directif. Il y en a d'autres sera peut-être plus bienveillant comme on le dit depuis le début de ce podcast. Mais je pense que le style de management doit être dans la culture d'entreprise et doit être transmis du directeur au directeur intermédiaire, au manager intermédiaire, etc. Et je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être prégnant au sein de chaque entreprise.
Et du coup, pour toi, les impacts, quels sont les impacts positifs? Alors, est-ce que c'est en termes de performance? Est-ce que c'est en termes de bien-être au travail? Quels sont les impacts un peu d'un management bienveillant pour toi sur l'entreprise d'une manière générale?
Ça va être un peu tout ça. Je pense que si le salarié est bien au travail, qu'il comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait, s'il est impliqué dans les démarches de réalisation, il va améliorer sa performance, il va être plus impliqué, et puis il va aussi mieux transmettre auprès d'autres collaborateurs après.
Ouais. D'accord, donc il y a un objectif aussi de transmission et d'une pérennité de la démarche de management aux collaborateurs.
Tout à fait.
Ok. Et du coup, je vais instaurer une petite tradition sur ce podcast. Donc à la fin, est-ce que tu aurais une recommandation de livre ou de contenu pour nos auditeurs ?
Ouais, bien sûr. Moi, il y a une rencontre, enfin plutôt une conférence, c'est pas vraiment une rencontre, mais une conférence qui m'a marqué. Une conférence qui avait été tenue par Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia, qui est une marque de textile. Il a écrit un livre en 2005 qui s'appelle Let My People Go Surfing, okay. Et dans lequel en fait il parle de toute la culture d'entreprise qu'il veut instaurer et tous les principes de management qu'il essaye de diffuser au sein de son entreprise. Quand on lit ce livre, je pense que la première fois que j'ai lu, ça devait être en 2008 ou 2009 après la conférence, on se dit, mais en fait, enfin en 2008-2009, je me disais, mais c'est un peu un hurluberlu. il a beau être hyper inspirant, avoir créé une super société, c'est un peu fou ce qu'il propose. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, il avait juste 15 ans d'avance. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent, c'est ce que les entreprises essayent de mettre en place. En plus, dans une dynamique très responsable de l'entreprise qu'il a fondée au début des années 70. Et ouais. c'est quelque chose qui est très actuel. Et donc pour le livre, voilà, je me dis, il a 15 ans d'avance pour la création de son entreprise, il en a 40 d'avance.
Ouais, c'est clair. En tout cas, le titre est assez évocateur.
Ouais, je recommande, oui.
Je note. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Nicolas, en tout cas, pour ce premier podcast. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi.
Bah, merci à toi, Louis.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.